Il y a donc un curieux paradoxe dans notre foi réformée. Parce qu'en effet, il y a dans l'Évangile de très nombreuses guérisons de gens malades, d'aveugles, de boiteux, de lépreux et autres choses. Guérisons opérées par le Christ. Or aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'attendons pas du pasteur ou du Christ qu'il guérisse nos maladies physiques. Et pour cela, nous préférons nous en remettre dans les mains du médecin. Et donc, comment pouvons-nous gérer une telle incohérence ? Par rapport à ces nombreuses guérisons qui se trouvent dans l'Évangile, il y a deux problèmes, à mon avis. Le premier, c'est d'abord de savoir si l'on y croit. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible ou pas ? Certains disent, oui, Jésus pouvait guérir toutes sortes de maladies et même ressusciter les morts. Et d'autres disent que ça n'est pas possible. Alors pour les petites guérisons encore, on peut le croire. Mais il y a des grosses guérisons, comme en particulier des résurrections. Jésus ressuscite Lazare, il ressuscite la fille de Jaïrus. Et là, c'est nettement déjà plus difficile. Et donc la deuxième question, c'est de savoir, s'il y avait miracle à l'époque, Jésus est-il encore en mesure de faire les mêmes miracles aujourd'hui ? Vous savez que cette question est très épineuse. Ça a été pendant des décennies une querelle presque sanglante au sein même du protestantisme entre les libéraux et les orthodoxes. Les orthodoxes disaient, qui n'ont rien à voir avec les orthodoxes grecs, ça veut simplement ceux qui pensent avoir la droite doctrine. Donc les orthodoxes protestants disaient « Il est très important de tout croire dans l'Évangile » et de croire que tout s'est vraiment passé comme c'est écrit. Les libéraux, au contraire, refusaient de croire ce qui semblait contraire à la raison. Et donc, ils refusaient les miracles, refusaient les guérisons trop spectaculaires et d'autres choses. Aujourd'hui, je vous rassure, vous n'avez pas à choisir pour un camp ou pour l'autre, parce que depuis déjà quelques dizaines d'années, il semblerait que le conflit ait été résorbé et que l'on ait réussi à trouver entre libéraux et orthodoxes un point commun. Et cette querelle est dépassée en disant « Nous refusons de poser cette question, de savoir si Jésus a vraiment fait ou non ces miracles. Dans les deux cas, ce qui nous importe, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que ça signifie pour nous aujourd'hui et maintenant. » Et donc, nous ne cherchons pas à lire dans l'Évangile des récits journalistiques de ce qu'aurait fait Jésus, peu importe qu'il l'ait fait ou non, l'important c'est le sens symbolique, le sens spirituel, le sens théologique. Et en effet, c'est assez astucieux parce que, par exemple, quand on voit que Jésus guérit un aveugle, a priori, cela peut sembler ne pas me concerner, parce qu'aujourd'hui, je vois pas mal du tout. Et donc, si je lis ce texte, alors je devrais dire « ça ne me concerne pas ». Je le lirai plus tard, quand je serai aveugle, alors en braille, bien entendu. Mais, en fait, ça ne me plaît pas trop. Parce que je crois qu'il faut, dans tout texte biblique, se demander en quoi ce texte parle de moi, aujourd'hui et maintenant. Et donc, je peux me dire que oui, aujourd'hui, je suis cet aveugle. Parce que peut-être, je ne vois pas clairement qui je suis, je ne vois pas clairement qui est Dieu. Je ne vois pas clairement où je vais, je ne vois pas toujours très bien qui est mon prochain, et donc il y a plein de choses que je ne vois pas. Et du coup, l'intérêt du texte, une fois de plus que le miracle ait eu lieu ou non, c'est de savoir comment Jésus peut m'aider à voir l'essentiel, qui est invisible pour les yeux, comme dit le petit prince. Et ça m'intéresse beaucoup. Oui, je pense que la foi, la réflexion, la Bible, la prière, le Christ dans ma vie, tout cela, ça peut m'aider à voir ce que je ne voyais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ben oui, j'ai dit « vous voyez », tiens, justement, quand je dis « vous voyez ce que je veux dire », qu'est-ce que vous avez à voir ? Rien, ça veut dire vous saisissez, vous comprenez. Et c'est donc ce regard-là que le Christ peut nous aider à ouvrir. Et donc ça, c'est ça, la nouvelle lecture de la Bible. Peu importe que Jésus l'ait fait ou non, l'important, c'est comment je peux m'attribuer à moi ces textes-là. Et du coup, dans toutes les guérisons, nous pouvons trouver quelque chose qui nous concerne. Quand il guérit un muet, la question c'est bien de savoir, mais Comment est-ce que je peux apprendre à dire l'essentiel à Dieu, à mon prochain, à moi-même? Quand il guérit l'homme à la main sèche, la question c'est comment puis-je apprendre à agir, à faire avec ma main ce que je dois faire? Quand il guérit un paralytique, eh bien il aide celui qui est découragé, celui qui n'est plus en marche dans sa vie et qui se laisse abandonner en étant incapable d'être en route. Quand il guérit, et même quand il ressuscite un mort, eh bien c'est de dire que Jésus, eh bien, peut nous relever. Même quand tous les autres nous disent « il est foutu, il est mort, il ne s'en relèvera pas », eh bien il y a un miracle extraordinaire, le Christ peut nous relever, il peut nous remettre debout, il peut nous remettre en marche, il peut nous permettre de revivre en quelque sorte, même quand nous pensions être happés par la mort. Alors ça c'est très bien, voilà, c'est comme ça qu'on règle le problème aujourd'hui. Mais en même temps, je dois vous dire qu'après des dizaines d'années où j'ai accepté gentiment cette leçon que l'on m'a apprise en faculté de théologie, je dois avouer que ça ne me satisfait pas entièrement. Parce qu'on me dit « vous n'avez pas le droit de poser la question de savoir si Jésus a vraiment ressuscité Lazare ». Mais voilà, moi je ne suis pas très obéissant et je me dis « mais après tout, si j'ai envie de la poser cette question, qu'est-ce qui m'empêche de la poser ? Jésus a-t-il vraiment guéri le lépreux ? Jésus a-t-il vraiment ressuscité Lazare ? Eh bien, moi, j'ai envie de poser la question, et donc je vais la poser. Même si je n'ai pas le droit, tant pis. Le problème, c'est qu'on a l'impression que par rapport à cette question-là, il n'y a que deux solutions. Soit, oui, il y a miracle. Soit, non, l'Évangile est un roman. Soit, il y a une guérison. Alors, le sens du texte, ce serait que cette guérison serait une preuve de la puissance divine du Christ. Soit on dit que ça n'est pas possible et que donc c'est pas vrai, et alors dans ce cas on dit que les textes sont des sortes de mythes, des inventions, des contes et légendes orientales. Je dois vous dire qu'aucune de ces deux solutions ne me plaît. La première, donc de croire textuellement au miracle, ne me plaît pas. Parce que on dit d'habitude que c'est une preuve de la divinité de Jésus et qu'il peut faire des choses extraordinaires. Bon. Mais ce qui m'embête, c'est que ça donne une certaine image de Dieu qui n'est pas celle que j'ai. C'est-à-dire d'un Dieu qui gérerait tout, d'un Dieu tout-puissant qui pourrait rendre malade l'un, guérir l'autre, qui pourrait faire mourir l'un ou sauver l'autre. Et je n'ai pas cette image de Dieu. Je ne crois pas que Dieu soit une sorte de magicien intervenant brutalement dans le monde pour mettre une guerre, pour y mettre fin, pour donner le sida à l'un, pour guérir le cancer de l'autre. Je ne vois pas un Dieu de cette manière-là. Et donc cette image, du Christ qui fait des miracles, cautionnerait cette espèce de théologie qui m'est abominable. Et puis, problème même plus essentiel que celui-là, parce qu'après tout, on a le droit de croire dans un Dieu tout-puissant. Problème plus essentiel, c'est que si l'on croit que Jésus pouvait de son temps guérir des malades et ressusciter des morts, question, pourquoi ne le ferait-il plus aujourd'hui? On nous dit que le christianisme, c'est Jésus ressuscité. On nous dit Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est là parmi vous. Et donc si Jésus a ressuscité Lazare, il peut bien ressusciter ma grand-mère. Et s'il l'a fait de son vivant, pourquoi ne le ferait-il plus maintenant? Est-ce qu'il faudrait croire que le Jésus ressuscité serait moindre que le Jésus de son vivant? Ah non, ça c'est pas de la bonne théologie. Le Jésus ressuscité, il est aussi bien que le Jésus de son vivant. Ou est-ce qu'il faudrait croire que, ben oui, voilà, c'est que Dieu vous aime pas. Du temps des évangiles, il faisait plein de miracles, et maintenant il vous dit « débrouillez-vous mes canards ». Eh bien ça, c'est pas ma théologie non plus. Je ne crois pas que Dieu se désintéresse de nous, et je ne crois pas que les disciples de Jésus aient eu une sorte de privilège d'avoir des chances que Dieu pouvait faire et qu'aujourd'hui Dieu pourrait sans sourciller laisser mourir, je dirais, les gens en Somalie qui crèvent de faim, laisser mourir mes enfants, laisser mourir ceux que j'aime, alors qu'il pourrait, oui voilà, d'un mot, ressusciter les gens comme il ressuscite Lazare et tout ça. Ça me pose un problème, effectivement. Et donc il me semble qu'en fait il n'y a que deux positions cohérentes. Si l'on croit que Jésus a bien fait tout ce qu'il a fait dans l'Évangile, soit l'on dit Il n'y a qu'une deux solutions cohérentes. Soit l'on croit que Jésus a bien fait tout ce qu'il a fait dans l'Évangile, alors on dit « il peut encore le faire aujourd'hui ». C'est la position d'un bon nombre d'églises évangéliques qui font des séances d'imposition des mains pour guérir les malades. Et j'ai même un collègue, d'ailleurs de l'Église réformée, à Paris, qui dit avoir déjà ressuscité un mort. Eh bien, moi, c'est pas trop mon truc, mais j'avoue qu'au moins, c'est cohérent. Il croit au miracle, et il croit qu'aujourd'hui, on peut encore faire des miracles, et que par conséquent, l'histoire de l'Évangile est bien notre histoire aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est pas trop la position d'Église réformée. Et je me souviens d'une fois, lors d'une assemblée générale, un paroissien avait pris la parole quand on avait adopté les nouveaux statuts. Parce que dans les statuts de notre Église, il est dit qu'il y a une liste de membres électeurs de la paroisse et qu'on est rayé de la liste des membres électeurs, alors je cite les statuts, par déménagement ou par décès. Et il a dit, c'est une offense à la foi dans la résurrection. Comment pouvez-vous rayer quelqu'un comme membre de la paroisse par décès? Et s'il plaît à Dieu de le ressusciter, que ferez-vous de lui? C'était évidemment une boutade, mais ça montre que, évidemment, nous n'attendons pas aujourd'hui que lors des services funèbres, la personne toque au cercueil pour dire « Coucou, Jésus m'a ressuscité ». Par conséquent, nous n'attendons pas normalement dans l'Église réformée que Dieu ressuscite nos morts matériellement, mais on entend la foi dans la résurrection comme spirituelle et pas matérielle. Par conséquent, soit on dit qu'aujourd'hui on entend ces textes matériellement, alors il faut y croire encore aujourd'hui, soit l'on dit que l'on entend aujourd'hui l'espérance de l'Évangile comme spirituelle, et alors on ne peut pas croire à l'historicité des guérisons de Jésus. Voilà, c'est QFD. Mais en même temps, ne pas y croire me pose problème aussi. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire que l'Évangile serait une sorte de gigantesque conte de fées, un mythe, des contes et légendes, et que Jésus n'aurait jamais ressuscité Lazare, qu'il n'aurait jamais marché sur l'eau, qu'il n'aurait jamais multiplié les pains, et même qu'il ne serait même pas ressuscité. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de l'Évangile? C'est une sorte de grande légende, c'est une fable de La Fontaine, pour essayer d'enseigner des choses spirituelles aux enfants et leur dire que c'est très bien de s'aimer et de se pardonner. Avouez que ça pose quand même un problème sur le statut de l'Évangile. Alors, moi je suis peut-être un peu trop naïf, mais cette deuxième attitude dite libérale ne me convient pas du tout. Et je suis peut-être trop naïf, mais je veux croire que l'Évangile n'est pas une invention, n'est pas un conte de fées, et que les disciples n'ont pas raconté des choses simplement pour nous en mettre plein la vue, mais qu'il y a quelques vérités historiques là-dessous. Alors j'ai une troisième voie à vous proposer. La troisième voie, c'est de dire, oui, il y a certainement vraiment eu des guérisons, mais en fait pas vraiment de miracles. Des guérisons, mais le récit a juste été un peu amélioré, donc il y a une base historique qui est forte. Autrement dit, c'est la lecture, je crois, la plus crédible et qui respecte le mieux l'Évangile. De dire, ben voilà, Jésus était un guérisseur et il savait guérir. Comment il guérissait? Ben j'en sais rien. Encore aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plein de guérisseurs à main nue. Et même dans les campagnes, il y a des rebouteux. Et vous avez des verrues, vous allez les voir, ils vous guérissent vos verrues. Comment ils font? On ne sait pas. Vous avez mal au dos, ils vous guérissent votre mal de dos. Et en Amérique du Sud, il y a des guérisseurs à main nue incroyables. Et la science se penche pour essayer de comprendre comment ils font, et on ne sait pas. Par conséquent, on peut dire que Jésus était un guérisseur, comme il y en a encore aujourd'hui beaucoup, et il n'y a pas besoin de faire appel à des miracles divins pour ça. Jésus donc guérissait, comment faisait-il? Eh bien, certainement par un mélange de puissance psychique assez d'une présence assez importante. Beaucoup de ces maladies pouvaient avoir une dimension psychosomatique forte, comme par exemple les maladies de peau qui ont une forte composante psychosomatique. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, on désignait par lèpre toutes sortes de maladies de peau parce qu'on ne savait pas les distinguer. Donc Jésus guérit le lépreux, très bien. Et puis par ailleurs, il avait sûrement aussi une certaine connaissance empirique qui était l'équivalent de la médecine de son époque. Et je me souviens d'une fois dans une étude biblique où je parlais de cette guérison de l'aveugle où Jésus guérit un aveugle en mettant de la salive sur les yeux de l'aveugle. Et je leur dis, vous voyez, c'est extraordinaire. Et il y avait là un vieux médecin colonial qui me dit « Bon, j'ai fait ça 20 fois. » Parce que, m'a-t-il dit, quand on est dans les pays très secs et qu'on n'a pas assez bu, eh bien, il y a une déshydratation du corps qui fait que l'humeur qui est sur les yeux peut se dessécher et devenir une sorte de croûte salée. Et qu'il suffit effectivement de dissoudre cette croûte salée avec la salive pour que la personne voie. Alors j'étais très déçu que mon miracle n'en soit pas un. Mais toujours est-il qu'on peut penser effectivement que Jésus donc guérissait, voilà, comme un guérisseur, sans forcément faire appel à Dieu. Alors est-ce que cela dévaloriserait l'Évangile? Eh bien, je ne crois pas, parce que déjà, même si l'on dit que Jésus était un guérisseur, ça a déjà du sens. Ça nous apprend une chose, c'est que Jésus se préoccupait de la dimension physique de ses interlocuteurs. Par conséquent, cela veut dire que Jésus ne s'est pas cantonné de dire aux gens « Ne vous faites pas de soucis, quelle que soit votre situation physique, l'important c'est votre âme, l'important c'est la foi, et que vous soyez aveugle, en chaise roulante, paralytique, lépreux ou autre, qu'est-ce que ça peut faire tant que vous avez en vous une santé mentale extraordinaire et l'espérance de Dieu ?» Jésus n'a pas dit cela. Quand il voyait quelqu'un qui souffrait dans son corps, lui il avait les moyens de le guérir, il lui disait « Eh bien voilà, je te guéris. » C'est-à-dire qu'il se préoccupait de la dimension physique de l'existence de chacun. Et ça, c'est assez essentiel parce que je pense que Jésus a donc guéri les gens parce qu'il avait le pouvoir de le faire, ce qui montre que pour lui, il n'y avait pas l'esprit qui comptait et le corps qui ne comptait pour rien. Mais le corps a une importance, et si on peut soigner les gens, eh bien c'est mieux. Autrement dit, si Jésus revenait aujourd'hui, il ne serait pas simplement pasteur à prêcher, il serait pasteur et médecin. Ou alors il serait pasteur et aussi acteur social. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens « Vous êtes pauvres, mais ce n'est pas grave, la richesse matérielle n'est rien, vous pouvez être riche dans votre cœur. » Il faut aussi aider les gens qui sont dans les problèmes matériels ou qui ont des difficultés dans leur vie. Et donc il faut faire des choses. Mais cette action matérielle, je crois qu'elle est la responsabilité de l'homme et que ce n'est pas justement l'action de Dieu. C'est pour ça que j'insiste en disant, ce qui est peut-être un peu hérétique, mais bon, j'insiste en disant que Jésus guérissait, mais il ne guérissait non pas en tant que Dieu, il guérissait en tant qu'homme. Parce que si l'on croit que c'est Dieu qui guérit, alors arrêtons la recherche contre le cancer, arrêtons la recherche sur le sida, arrêtons même d'aller voir les médecins, et dites-vous que Dieu peut faire vivre et mourir. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont cohérents comme ça. Il y a des sectes protestantes évangéliques en Amérique, aux États-Unis, qui refusent de payer les cotisations de sécurité sociale en disant « cela ne nous regarde pas ». Et pour ce qui est de la santé, nous nous en remettons à Dieu. Bon, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais moi, je crois que l'homme a un grand rôle à jouer dans ce monde. Et que justement, le monde matériel lui a été confié, qu'il a une responsabilité. Et donc, il ne faut pas mélanger les domaines de Dieu et les domaines de l'homme. Dieu, il est au ciel et l'homme, il est sur terre. Alors aujourd'hui, donc, s'il est vrai que le corps est moins important que l'âme, je crois que c'est un des messages de l'Évangile, hein, le corps est moins important que l'âme. Comme Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ensuite ne peuvent rien faire, mais créez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. Eh bien néanmoins, il est bon de se sentir responsable de notre dimension physique et matérielle. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il ne faudrait pas croire qu'aujourd'hui, la foi pourrait guérir physiquement. La foi n'est pas une thérapie, ni pour les maladies physiques, ni même pour les maladies mentales. La foi, la prière, ça peut aider beaucoup dans sa vie. Et sans doute que ça peut participer à notre guérison physique, parce que le moral a une importance dans toute maladie physique, mais que ce n'est pas forcément déterminant. Et je ne dis pas ça pour dévaloriser la foi, mais je dis ça pour une raison, à mon avis, très valable et indiscutable. C'est pour déculpabiliser ceux qui sont malades. Parce que si vous dites « Ah, vous êtes déprimé, eh bien vous n'avez qu'à prier et mettre votre confiance en Dieu. » Eh bien le déprimé, il va prier, il va mettre sa confiance en Dieu, il sera toujours déprimé, et il sera encore plus déprimé, parce qu'il se dira qu'en plus, il a la culpabilité de n'avoir pas su assez bien prier. Et quand des parents viennent me voir parce que leur enfant est mort de maladie, je vais leur dire « Eh bien c'est que vous n'avez pas assez prié pour votre enfant. » Ah ben bravo, Moi, je ne peux pas dire des choses pareilles. Et c'est pour ça que je tiens à séparer ces domaines, justement pour déculpabiliser ceux qui souffrent. Et pour dire à ceux qui sont en dépression qu'il ne suffit pas de leur dire « Allons, prenez-vous en main !» Il ne suffit pas de leur dire « Vous n'avez qu'à prier !» Mais, bon, d'accord, pour des petits passages à vide, la prière, c'est très bien. Mais pour des grosses maladies, ce n'est pas ça qui fonctionne. Les maladies ne relèvent pas de la foi. Il ne faut pas tout mélanger. La foi, ça peut être de l'ordre de l'hygiène de vie. Ce serait comme le sport, voilà. Je dis, ben, il faut faire du sport, vous marchez, vous faites un peu de course à pied. Ah bon, je me porterai mieux ? Ben, ça ne vous guérira pas, mais ça vous fera du bien et peut-être que vous tomberez moins malade. Mais si vous attrapez une pneumonie ou un cancer, ce n'est pas la peine d'aller faire un jogging. Ça ne vous guérira pas. Et je pense que la prière, la vie spirituelle, c'est comme ça, c'est de l'hygiène, je dirais mentale, de l'hygiène même corporelle, c'est de l'hygiène dans sa vie qui nous permet d'être en meilleure santé. Mais donc Dieu n'a rien à voir avec les maladies physiques, je crois, rien à voir avec nos infirmités physiques. Et quand Jésus dit « Je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades », quand il dit ça, ce n'est pas du tout à propos des malades cliniques, c'est à propos des péagers, des pécheurs, de ceux qui se sentent coupables, de ceux qui sont rejetés par la société. C'est ceux-là les malades que Dieu guérit. Et je vais même aller plus loin pour vous embêter un peu, un peu plus peut-être, pour vous dire que la foi non seulement ne guérit pas forcément, mais même elle peut rendre malade. Et c'est vrai que par exemple, un missionnaire qui a la foi, qui prie Dieu et qui va enseigner l'évangile dans des pays impossibles et qui attrape une malaria et qui meurt à 35 ans, la foi l'a-t-il guéri de quoi ? Non, ça l'a rendu malade, point. Et je dirais même la chose suivante. Une fois, j'avais une paroissienne qui souffrait justement de dépression. J'étais tout jeune pasteur. Elle venait me voir en espérant que je l'aide à guérir. Et j'avais gardé, je ne savais pas très bien comment faire, j'avais gardé une certaine distance et en gros, je ne voulais pas lui laisser trop compter là-dessus, quoi. Alors, déçue, elle est allée voir le pasteur qui m'avait précédé dans ce poste et qu'elle connaissait bien. Ce pasteur, après avoir parlé avec elle, lui dit « Madame, je ne suis pas là pour guérir les malades, mais je suis là pour rendre un peu malades les gens trop bien portants. » Et elle avait été très choquée par cette phrase. Elle est revenue vers moi. Finalement, elle avait trouvé que je n'étais pas si mauvais que ça. Et petit à petit, d'ailleurs, c'est allé mieux. Donc l'histoire se termine bien et aujourd'hui, c'est devenu... quelqu'un que je connais encore très bien, qui m'est assez proche. Mais cette phrase de mon collègue m'a toujours un peu étonné, parce qu'à la fois elle me plaisait, en me disant « Mais tiens, c'est vrai, il y a quelque chose de vrai là-dedans. » Jésus a quelque chose de dérangeant, et finalement, c'est le poil à gratter de l'existence, un peu la foi. Ça nous empêche de nous enfermer dans le confort, dans l'habitude, etc. Donc oui, je ne suis pas là pour rendre bien portants les malades, mais pour rendre un peu malades les gens trop bien portants. Mais en même temps, je me disais « Mais... » C'est quand même pas tout à fait l'évangile, ça. Jésus a dit « Je suis venu pour guérir les malades » et tout ça. Et puis j'ai trouvé effectivement que dans l'évangile de Jean, un passage très curieux à propos de la guérison de l'aveugle-né, où Jésus justement dit cela. Il dit « Je suis venu pour un jugement afin que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Par conséquent, vous voyez que la chose est un peu complexe. Mais bon, passons. Donc, vous disais, Jésus a guéri des gens, mais je crois que ce n'est pas ça l'essentiel. Certainement, si Jésus était guérisseur, il a guéri plein de gens. Et de ce côté-là, pendant toutes les années où il a guéri les gens, il a dû en faire beaucoup plus que ce qui est raconté dans l'Évangile. Mise bout à bout les guérisons de l'Évangile, il n'y a pas, je dirais, c'est rien, c'est une semaine de travail pour un médecin, quoi. Pas 3 ans. Et donc, il faut penser que Jésus a guéri plein de gens et que les guérisons qu'on nous a racontées, ce sont celles qui avaient un sens, autre que la guérison pure. Et justement, ce sont les guérisons qui avaient que l'on pouvait lire comme une parabole, les guérisons qui avaient un double sens, les guérisons qui avaient un sens d'enseignement. Et là, c'est vrai que Jésus peut effectivement me guérir intérieurement à l'image de ces guérisons physiques. Jésus peut m'ouvrir les yeux, je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus peut me relever quand je suis à terre. Il peut me relever quand je suis terrassé par le doute, par le peur, par la peur ou la difficulté. Il peut m'aider à réapprendre à agir. Il peut me remettre en marche quand je suis paralysé de peur, de découragement. Il peut me purifier quand je me sens coupable, quand je me sens exclu du monde, par ce que représente la lèpre. Et il peut même faire encore plus, il peut me faire marcher sur l'eau. Il peut, quand je suis face à un événement qui me semble intraversable, il peut multiplier le peu de nourriture spirituelle que j'ai pour qu'elle me nourrisse. Et il peut transformer l'eau plate de ma vie dans un vin de joie et de folie. Il peut même me ressusciter, il peut me donner la vie, il peut me remettre en vie quand je me morfonds et quand tout le monde me dit fichu. Et tout cela, il peut le faire. Et tout ça, ça n'est pas des miracles. Eh bien, si, ça en est. Et donc, vous voyez, je crois très fondamentalement au miracle. Le tout, c'est de ne pas se tromper de miracle. Parce que sinon, on finit par ne plus croire en rien du tout. Et donc, je crois au miracle. Et je crois que le Christ, effectivement, peut faire des choses extraordinaires dans ma vie. Il peut la transformer, la rendre rayonnante. Il peut la rendre pleine de joie, pleine de confiance, pleine d'enthousiasme. Et cela, indépendamment de mes infirmités physiques. Donc, oui, certainement. Jésus est venu donner la vie à ceux qui ne l'ont pas, il est venu ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques et même faire rajeunir comme l'aigle ceux qui vieillissent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et j'y crois, c'est le fondement de ma foi. Amen.